Elisabeth Angot, vous êtes à la fois l'une des compositrices de la soirée qui nous attend à la salle Benoît XII, samedi prochain. Une soirée autour du Pierrot Lunaire de Schoenberg. C'est une pièce que Schoenberg a composée en 1912. En quoi cette pièce peut-elle être considérée comme révolutionnaire?
Cette pièce d'Arnold Schoenberg, elle marque un tournant dans l'histoire de la musique vocale et finalement dans l'histoire de la musique tout court, parce que on sort finalement du 19e siècle et on a eu jusqu'à présent le traitement de la voix qui était soit accompagné par l'orchestre, soit accompagné par le piano dans le cas du lead. En fait, ce que fait Schoenberg, c'est que donc il réunit quelques instrumentistes. Donc on a flûte, clarinette, piano, violon jouant aussi de l'alto et violoncelle, un ensemble non dirigé à l'origine, donc pas de chef d'orchestre, et cette voix qui n'est plus tout à fait lyrique parce qu'elle est entre la récitation et le chant. Schoenberg ne précise pas la tessiture de la voix, ça peut être chanté par un homme ou par une femme. Traditionnellement, ça a quasiment toujours été par une femme. Nous proposons ici une version qui est interprétée par un ténor. Et donc, entre cette nouvelle formation, c'est-à-dire le fait de sortir de l'orchestre ou du piano et d'aborder la voix de manière totalement nouvelle, effectivement, cette pièce marque un tournant dans l'histoire de la musique et va rester avec cette formation qu'on appelle donc la formation Pierrot, c'est-à-dire voix et petit ensemble instrumental. Va rester une formation finalement très utilisée dans tout le XXe siècle par les compositeurs, jusqu'à aujourd'hui.
Alors ce Pierrot Lunaire, on aura l'occasion de l'écouter ou de le découvrir, mais en deuxième partie, c'est-à-dire qu'en première partie, il y aura une pièce que vous avez signée, puis une pièce de Mahler. Alors déjà, quel est le rapport entre la pièce de Mahler et Arnold Schoenberg?
Alors déjà, Mahler a été quasiment un des professeurs en fait de Schoenberg. Alors, ils étaient plus amis que directement son professeur, mais enfin, comme Mahler était un peu plus âgé, il y avait, on va dire, un lien d'autorité, une influence très forte pour le jeune Schoenberg. Déjà, c'était une parenté assez évidente. Par ailleurs, il se trouve que ces leaders qu'on va donner sont à l'origine pour voix et orchestre, et Schoenberg a fait un arrangement, une instrumentation pour petit ensemble, que j'ai moi-même ensuite un petit peu réarrangé pour notre formation précisément à nous, mais enfin très peu. Donc voilà, c'était le lien entre les deux. Et avec la pièce que j'ai écrite moi, c'est que j'ai composé une pièce qui est donc pour cette formation, c'était d'ailleurs voix et instrumentale, un peu en hommage à cette formation finalement qu'on a héritée de Schoenberg, qui est devenue un classique de la musique du XXe siècle et du XXIe siècle.
Donc c'est plus la formation qui vous intéresse que la pièce de Schoenberg à la base?
D'un point de vue stylistique, oui, dans le sens où je n'ai pas réutilisé les modes de jeu ou l'esthétique directement propre à Schoenberg dans cette pièce, ni pour la voix, ni pour les instruments.
Donc ça, ce sera la première partie avec la pièce de Mahler et la pièce d'Elisabeth Angot. Mais alors, ce ne sera pas véritablement un simple concert, ce sera un concert-spectacle. Comment est arrivée l'idée justement d'introduire de la danse et puis des arts plastiques dans cette soirée musicale?
Ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que la première étape, elle a été déjà il y a 2 ans, quand on a sollicité Philippe Angot, qui est mon père, pour faire des projections pour accompagner le Pierrot Lunaire. Et c'est projeté sur un grand écran en fond de scène, donc 9 mètres sur 5, et ça constitue, on va dire, le décor en fait de la scène, avec une dimension aussi de lumière, parce qu'avec la vidéoprojection, on a une partie de la lumière de ces projections qui arrive sur scène et qui a un peu le rôle de lumière sur scène. Ça, c'était la première étape. La deuxième, ça a été le fait d'avoir envie de travailler avec la danse depuis longtemps, avec une amie de longue date, Hélène Belvert, qui est également chorégraphe. Et finalement d'incorporer ça au Pierrot Lunaire, ne sachant pas à l'époque que c'était une première, c'est-à-dire ça n'a jamais été fait, on n'a pas encore chorégraphié le Pierrot Lunaire. C'était une gageure pour tout le monde parce que l'idée c'est une chose, mais après il faut la mettre en œuvre. C'était aussi une gageure pour Hélène Belvert de réussir à justement mettre en mouvement cette œuvre qui a priori n'a pas forcément les caractéristiques musicales pour être dansée. Mais le point de départ de tout ça finalement, et pour la réalisation des tableaux et pour la chorégraphie, c'est en grande partie le texte qui sont donc des poèmes à l'origine du poète belge Albert Giraud, qui ont été traduits en allemand, donc en fait a mis en musique Schoenberg. Mais disons que globalement, nous, pour la compréhension du sens, on se base sur l'original qui est en français, qui sont des textes magnifiques, extrêmement imagés, métaphoriques, qui parlent du Pierrot Lunaire. Finalement, on a presque du mal à savoir exactement qui est ce Pierrot Lunaire. Est-ce que c'est vraiment un personnage? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est voilà? Et donc ce texte a été le point de départ, quelque part, de l'élaboration ensuite de la scénographie, qui a été réalisée également par Philippe Angot, et de l'incorporation de la danse à la musique et au texte.
Est-ce que l'univers plastique, les projections et puis l'incursion de la danse, ça permet peut-être de mieux rentrer dans la musique, de mieux se laisser prendre par la musique, qui au départ c'est de la musique atonale, je suppose. Donc forcément, on peut être un peu déconcerté.
Oui, vous avez tout à fait raison. Même si c'était peut-être pas le point de départ, c'était peut-être pas la volonté de départ, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir ces projections et par ailleurs la danse, donc une incarnation physique en fait de cette dimension du pyrolunaire sur scène, ça joue aussi un rôle de médiateur entre la musique qui, toujours pour nos oreilles, est assez inouïe parce que voilà, parce que complexe et très subtil et assez extrême, donc pas forcément toujours très facile à appréhender. Donc ça joue un rôle de médiateur et ça permet d'incarner toutes les dimensions sensibles finalement auxquelles on peut avoir accès pour appréhender une œuvre en passant par, en effet, une dimension visuelle, une dimension spatiale, une dimension charnelle qui va avoir lieu.
Alors l'ensemble 44, j'ai eu l'occasion d'écouter, notamment la partie vocale avec ce concert assez merveilleux d'ailleurs, où on voyageait à travers l'histoire de la polyphonie, de l'époque primitive jusqu'à nos jours, d'ailleurs avec à la fin des compositions que vous aviez signées. Là, on va découvrir un autre aspect de l'ensemble 44, puisque là, il y aura des instrumentistes. Ce qui m'a frappé, outre la qualité des chanteurs, c'est la jeunesse. Est-ce que la jeunesse, et puis là, vous êtes peut-être quand même très jeune aussi, est-ce que la jeunesse est l'une des caractéristiques de cet ensemble 44 ?
C'est peut-être pas un impératif. Il se trouve que...
Une génération peut-être, non ?
Une génération, vous avez raison, c'est quand même une génération, en effet, de gens donc finalement plus si jeunes. Hein, on a tous plus de 30 ans maintenant, donc on n'est pas vieux, mais on n'est pas non plus 18 ans. Donc de jeunes professionnels, on va dire, il ne s'agit plus d'étudiants, qui ont cette volonté de s'intéresser aussi à la musique récente. Et en effet, il se trouve que ça se trouve être les personnes qui sont dans mon entourage aussi, forcément professionnelles de ma génération, avec qui j'ai eu envie de travailler et de mettre ce projet sur pied.
Il y a aussi, autour de l'ensemble 44, les rencontres musicales et scientifiques, dont une édition a eu lieu il y a très peu de temps. Dans le concert auquel j'ai assisté l'année dernière, il y avait toujours un côté pédagogique, mais dans le bon sens du terme, de la même manière que là, vous allez nous proposer une sorte de satellite autour de Schoenberg. Il y a une volonté vraiment de transmettre, de faire découvrir au niveau du travail de l'ensemble 44.
Oui, absolument. C'est bien que ça se voit, parce qu'il y a cette volonté, tout à fait, c'est-à-dire la volonté à l'origine, c'est celle, disons, de promouvoir, j'aime pas trop ce terme, mais de promouvoir la musique contemporaine, la musique qui est écrite aujourd'hui, mais de la resituer, ou de la situer tout court, dans un contexte plus large, historique, et en continuité de l'histoire qui la précède. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je trouve qu'on entend mieux la musique contemporaine quand on l'entend dans ce contexte-là, que ça donne des clés, sans avoir besoin de faire des discours. Quelque part, la musique parle d'elle-même. Et donc, on est attaché au fait de construire des programmes qui donnent à entendre cette progression, cette continuité, et qui, de ce fait-là, vont avoir effectivement une portée, on va dire, un peu pédagogique. En effet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Oui.
Il me semble que j'ai bien vérifié, mais le concert de samedi est gratuit.
Tout à fait.
Là, on est vraiment dans l'éducation populaire, là.
Le concert de samedi est gratuit. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que c'est une sortie de résidence. Donc, le théâtre Benoît XII est aussi mis à disposition à partir d'aujourd'hui par la ville jusqu'à samedi pour faire la sortie de résidence. Donc, le contrat, c'est que l'entrée soit gratuite. Par ailleurs, nous avons à cœur que le prix d'entrée ne soit pas une barrière. Ceci dit, nous invitons très chaleureusement les gens qui le souhaitent à faire un don en ligne à notre association, parce que bien évidemment, ça a un coût. Nous n'engageons que des professionnels, bien sûr, et donc on reçoit des subventions, mais qui ne couvrent absolument pas la totalité des frais. Donc on a aussi besoin des dons du public et de la fidélité de notre public. Donc on appelle quand même les gens qui ont la capacité de le faire et l'intérêt de le faire, d'apporter un soutien financier. Voilà.
Pour terminer, Elisabeth Tango, on n'a pas parlé du chef. Le chef, c'est un fidèle de l'ensemble 44.
Absolument. Léo Margue, qui est un chef d'orchestre excellent, vraiment formidable, qui est avec nous depuis les débuts de l'ensemble. Donc, ça fait la 3e ou 4e fois maintenant qu'on travaille ensemble. De même qu'un certain nombre de musiciens qui sont fidèles. Parfois, on doit en remplacer certains qui ne peuvent pas venir à regret. Mais globalement, on travaille toujours avec une équipe la plus soudée possible. Ça fait partie du souhait qu'on a de développer développer quelque chose qui génère une harmonie à tous les plans et aussi sur le plan humain. Et donc, des musiciens qui ont l'habitude de travailler ensemble avec un chef qui les connaît et qui a l'habitude de travailler avec eux, ça fait complètement partie des ingrédients qui sont nécessaires à l'élaboration de cette alchimie qui peut avoir lieu quand on va à un concert.
La pièce d'Elisabeth Angot qu'on va écouter, qu'on va découvrir samedi, ce sera une création ?
Pas tout à fait, parce qu'elle a déjà été jouée il y a 2 ans, quand on faisait déjà le Pierrot Lunaire sans la danse à l'époque et sans la mise en scène également au Théâtre Benoît XII. Elle a déjà été jouée une première fois. Elle fait partie de ce programme, donc comme elle fait partie du programme, on la rejoue une deuxième fois. Voilà, mais ça sera presque une création, parce qu'entre-temps, elle n'a pas été jouée, il y a eu le Covid, etc. Donc quasiment.
À samedi alors ?
Oui, à samedi, avec grand plaisir.